dans le pavillon des jardins de l'Université Laval.
Bonjour, ici Sarah Mascotte pour vos nouvelles. Aujourd'hui, les 110 juristes de l'État sont dans l'obligation de retourner au travail suite à l'adoption d'une loi spéciale du gouvernement Couillard hier en après-midi. Après une grève de 4 mois, le syndicat des avocats et des notaires n'est toujours pas arrivé à une entente avec le gouvernement. Les parties ont 105 jours pour trouver une entente, sans quoi les avocats et notaires du gouvernement du Québec se verront imposer une hausse salariale inférieure au reste de la fonction publique. Le syndicat a l'intention de contester la loi spéciale devant les tribunaux. Des publicités diffusées dans les différents hebdomadaires de Montréal visant à souligner les investissements de la ville sèment la controverse. Les élus des autres formations accusent l'équipe Coderre de faire de la publicité partisane en profitant de la neutralité des arrondissements de Montréal. Sur ces publicités, seuls les visages des élus de l'équipe Coderre apparaissent avec le logo des arrondissements de la ville. La plupart des arrondissements ont affirmé qu'ils n'ont jamais été mis au courant des publicités, ni même autorisé l'utilisation de leur logo. L'équipe Coderre se défend en confirmant avoir payé pour ces publicités, niant toute partisanerie. À l'international maintenant. Hier soir avait lieu le premier discours de Donald Trump devant la Chambre des représentants et le Sénat. Au cours de cette allocution, le président des États-Unis a mentionné l'émergence d'une nouvelle fierté nationale. Il promet entre autres une plus grande fermeté en ce qui concerne l'immigration afin de protéger les emplois des Américains. Alors que les élus républicains offraient une ovation au discours du président sur ses projets électoraux, les élus de l'opposition sont restés quant à eux plutôt froids. Au sport, hier soir, le Canadien de Montréal remporte la victoire de 1-0 contre les Blue Jackets de Columbus grâce au but d'Alex Galchenyuk en avantage numérique. Le prochain match du Canadien aura lieu jeudi soir contre le Predator de Nashville. Ce sera la première fois que cette rencontre a lieu au Centre Bell depuis la transaction de Piqué Subban contre Shea Weber le 29 juin dernier. C'était vos nouvelles du 1er mars. Shea vous souhaite une excellente journée.
Bonjour et bienvenue à l'émission Entreprendre Québec. Cette semaine, on s'entretient avec Louis et Louis-Marc de Minute Dépôt. Et on a aussi un entretien avec Caroline Sinette de La Ruche Québec. Restez avec nous pour les 60 prochaines minutes. C'est Yannick Lepage sur les ondes de Chiz. Alors, je m'entretiens aujourd'hui avec Louis-Marc et Louis de la compagnie Minute Dépôt. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Alors, naturellement, donc le format de l'émission est, je pourrais pratiquement toujours le même, c'est-à-dire que je vous pose des questions sur vous-même, pour commencer. Puis ensuite, on va approfondir un peu votre compagnie qui s'appelle Minute Dépôt. Je pense qu'on commence par Louis-Marc. Alors, quel est ton passé en tant qu'entrepreneur ou autre expérience, travail, formation? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à Minute Dépôt?
Ben, au fil des années, j'ai fait un bac en administration avec la motivation de d'œuvrer en PME. Et tout au long de ma carrière, j'ai travaillé en PME. Et puis, dans les dernières années, donc dans les 15 dernières années, j'ai travaillé surtout au niveau technologie et au niveau informatique de réseau, etc. Et dans les plus précisément, dans les 5 dernières, dans le domaine du web. C'est mon collègue Louis qui m'a attiré dans ce merveilleux monde du web.
D'accord.
Et puis, vraiment toujours au niveau technologique depuis une quinzaine d'années.
OK. Puis, est-ce que vous avez un passé? Parce que Minute Dépôt, c'est quand même lié un peu au domaine d'une, je dirais pas du notariat, mais pas loin. Donc, c'est qu'est-ce qui vous a amené à ce créneau-là en particulier?
C'est une expérience vécue.
OK.
Donc, dans une vie antérieure, en 2012, Louis m'est arrivé pour vraiment partir un projet de start-up dans le domaine des loisirs. Et puis, du jour au lendemain, on a monté une compagnie qui a eu du succès. Et puis, on a travaillé fort sur cette organisation-là, mais on priorisait pas l'aspect organisation, toute l'histoire du livre de société, etc.
L'aspect légal.
Comptabilité, on était un petit peu déficient, je veux dire. On était un petit peu broche à foin là-dessus.
Okay.
Et puis, on a appris un peu à nos dépens que c'était pas, fallait se structurer.
D'accord. Et quel était le nom de cette start-up?
Ça s'appelle toujours okay. Julot. En fait, on l'a vendu en 2015. On pourra raconter les détails un petit peu plus tard aujourd'hui.
Okay.
Mais julot.ca
okay.
dans le domaine des loisirs.
Super. Alors, merci Louis-Marc. De ton côté, Louis?
Oui, ben moi, j'ai commencé très, très jeune au niveau entrepreneurial. Avant même d'entrer au cégep, j'avais déjà une compagnie qui vendait des ordinateurs à mes tantes, à mes oncles, à mes amis, à peu près okay. n'importe quoi. Puis j'avais aussi déjà construit 2 logiciels avant okay. même d'entrer dans ma technique informatique au cégep.
Donc, tu étais plutôt en avance par rapport
oui,
aux autres,
puis
je pense.
Très autodidacte.
Okay.
Donc,
okay.
De fil en aiguille, bon, naturellement, quand je suis arrivé au cégep public, ça allait pas assez vite parce que j'avais déjà beaucoup, beaucoup de notions d'acquises. Mm-hmm. Donc, je suis allé au public. Puis c'est là ben, que j'ai commencé justement avec ma première vraie compagnie qui existe encore, qui est Kinotronix, qui vend des services web hébergés.
Okay.
Donc, c'est par là que j'ai rentré par le web. Donc, en fournissant plein de services hébergés, mais j'ai fini par toucher à toutes les technologies des clients parce que, bon, il y avait des bugs, il y avait des questions. Il y avait...
Naturellement, l'informatique étant ce qu'elle est.
C'est ça. Donc, autant au niveau programmation, au niveau web, j'ai toujours cheminé, dans le fond, au niveau du web, jusqu'à temps qu'on démarre Julo, où là, ça a été vraiment une business web, une entité séparée. Mm-hmm. On est parti Julo jusqu'à la vente, puis c'est quand on a vendu qu'on s'est rendu compte que si tu te structures pas à la base, ça fait mal.
C'est difficile un peu, hein?
Difficile okay. Un peu, beaucoup.
OK, donc, excellent. Puis, donc, je vois que vous avez quand même un parcours un peu technologique tous les deux, peut-être plus techno-réseau de ton côté, Louis-Marc, puis toi plus techno-développement,
développement web. Réseau, moi, j'ai pas mal mixé les deux au début.
Excellent. Et là, on s'est rendu à Minute Dépôt. Parlez-moi de l'entreprise, donc sa genèse, puis aussi où vous en êtes aujourd'hui.
Oui, bien, ça part effectivement de notre expérience vécue chez Julo. Comme on le mentionnait, un moment donné, chez Julo, on voulait avoir un livre de société parce qu'on savait que c'était nécessaire. Mm-hmm. Donc, on a regardé pour acheter sur le web un livre de société. On l'a fait venir, on a trouvé, ça a coûté 115 $. On a fait venir ce fameux livre-là. Et,
des pages blanches.
Oui, un beau livre en papier.
Exactement. Donc, un cartable noir avec des boulons. Et on espérait trouver à l'intérieur du cartable au moins des templates, un minimum. Ah non, tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était que des onglets. On avait commandé des certificats d'action aussi.
Okay.
Et quand on a regardé ça, moi et Louis, on a fait « Yark! » On l'a tout simplement remis sur une tablette et on a dit « Garde, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Mm-hmm. » Un petit peu plus tard, parce qu'il n'y a pas de date là-dessus. Hein.
C'est très mauvais dans ce temps-là.
C'est très, très mauvais.
Okay.
Et puis, donc, quand est arrivé le moment de faire la transaction avec Julo, avec nos acheteurs, ils ont dit « Bon, ben les amis, on aimerait voir votre livre de société. » On a fait « Oh oui! »
Bien sûr. «
Les amis, on aimerait avoir vos états financiers vérifiés. » Oh oui! Fait que là, on s'est mis à pédaler, effectivement, pour tout refaire. On a contacté Catherine Morissette, notre avocate, pour refaire le livre de société en rétroaction. Évidemment, ça a été beaucoup, beaucoup d'efforts. Mm-hmm. Et puis, la comptabilité, on a tout refait, la comptabilité, d'une manière orthodoxe, depuis le point de départ. Donc, énormément de boulot pour 3 ans, pour rien. Si on avait fait ces moves-là au point de départ...
Au bon moment.
Oui, ça aurait été tellement plus facile.
OK.
Donc, c'est parti de ce besoin-là, en disant... Est-ce qu'on pourrait offrir la même structure, une structure plus facile pour les entrepreneurs qui veulent tout simplement se mettre conforme sans trop d'efforts au point de départ? Et Minute Dépôt est un peu ce qu'elle est aujourd'hui, vient de ce besoin-là.
OK. On retourne à combien d'années en arrière, donc depuis que ça a démarré?
Donc, Minute Dépôt a été officiellement fondée en 2014,
okay.
Okay. Mais a vraiment pris un tournant au niveau de ce que c'est aujourd'hui en 2016.
Donc, c'est vraiment tout récent, là.
C'est tout, tout récent, okay. Effectivement. Là.
Puis, donc, si on situe un petit peu les auditeurs, c'est vraiment un outil avec des assistants qui permet de générer justement les minutes de création d'une entreprise, entre autres. Est-ce qu'on peut gérer les procès-verbaux à travers ça?
Oui, oui, effectivement.
Okay.
Moi, OK. Donc, oui, effectivement, la plateforme permet à la base de mettre tout le contenu requis dans un livre, ce qu'on appelle au Québec un livre de société, mm-hmm. un livre de minutes ou un livre de société. Donc, on y retrouve, par exemple, le registre des actionnaires, les certificats d'action, les règlements généraux de la société, etc., mm-hmm. etc. Et effectivement, la section des procès-verbaux.
OK.
Au fil du temps, en discutant avec des clients potentiels, on a découvert que les demandes étaient toujours les mêmes. Les gens voulaient avoir des templates, ils voulaient avoir des canevas de ces documents-là. Mm-hmm. Et oui, on était parti sur une idée d'offrir gratuitement des canevas. Et les gens voulaient avoir un paquet d'outils comme des rappels de fin d'année, parce que généralement, toutes les compagnies l'oublient. Et puis, ce que Louis a décidé de faire, c'est un grand coup. Il a relevé. On lui demandait d'en faire comme ça et puis finalement, il a fait un grand coup. On a fait un générateur de documents. Au lieu d'offrir des templates aux clients, on leur pose des questions au mm-hmm. moment de la création du livre et en mentionnant des réponses simples comme l'adresse du siège social, qui sont les actionnaires, quels sont leurs rôles au conseil d'administration, combien d'actions qu'ils possèdent, toutes des questions super simples, le système va générer l'entièreté des documents.
Wow! OK.
Donc, c'était un grand, grand défi. Et puis, Louis et son équipe de programmeurs ont travaillé presque toute l'année 2016 là-dessus.
OK.
Je pense de janvier à décembre, techniquement.
Okay. Ouais, un bon 10 mois. Là.
Une dizaine de mois là, sur ce boulot-là. Et c'est pour ça qu'on a ralenti un petit peu le développement commercial en 2016
okay.
pour peaufiner les produits parce que il faut comprendre aussi que le générateur de documents est parti de documents d'avocats qui sont dans notre environnement, qui nous ont permis d'utiliser leurs documents.
OK.
Sauf que le langage était trop perdu. Et on s'est donné comme mission de rendre le langage accessible à monsieur tout le monde. On fait beaucoup de blagues en disant il faut que ça soit accessible à Joe the Plumber. Mm-hmm. Et puis, donc, on est parti de phrases obscures contenant du latin de 40 mots pour ramener ça à un français qui tient en 15 mots.
Okay.
Et ce, pour chaque paragraphe. Donc, on a passé des soirées avec du rum and coke à refaire ces foutus documents-là. Tout le printemps, finalement.
Okay. Est-ce que c'était le rhum qui était important ou le coke?
Non, c'est l'équilibre.
Ouais, l'équilibre, l'important. Bon, c'est parfait, excellent. Comment vous avez évalué donc le besoin de ce service-là? Est-ce que... Donc, je comprends que vous avez vécu une expérience, mais comment vous avez sondé, comment vous avez testé le terrain pour dire hey, « oui, on répond à un besoin vraiment important? »
Ben, en fait, le besoin est venu au départ. La plateforme était vraiment faite pour les avocats, donc il fallait savoir qu'est-ce qu'on faisait.
Okay.
Donc, tu sais, bon, il fallait savoir, bon, OK, ça me prend un bail là, ça me prend des règlements intérieurs, bon, tout ce qui va comme document. Puis on avait des utilisateurs qui nous trouvaient, qui s'inscrivaient sur la plateforme, puis ils nous écrivaient en disant, ben, je sais juste pas quoi faire.
Mm-hmm.
Fait que là, en prenant toutes les rétroactions comme ça des utilisateurs, on a fini par se dire, bon, OK, ça prend des gabarits. Ça a été notre premier mot, ça prend. Mais on s'est rendu compte qu'en leur donnant des gabarits, ben, ils savaient pas plus quoi mettre dedans, quoi écrire. Fait que là, on s'est dit, bon, OK, il faut être plus intelligent, il faut être capable que l'utilisateur normal, qui connaît pas trop le côté légal, qui sait que ça prend un livre de minutes, mais il sait pas qu'est-ce que ça prend dedans.
Mm-hmm.
Parce que si on cherche sur Google qu'est-ce que ça prend d'un livre de minutes, on trouve rien. Il y a rien qui le dit, c'est comme une chasse gardée. Personne n'en parle. Fait que là, nous autres, on s'est dit, ben, parfait, il faut être capable d'amener l'utilisateur, justement, qui nous pose la question, qu'est-ce que je mets là-dedans, avec des questions simples, qui arrivent au bout, puis que tout soit fait. Fait que c'est vraiment comme ça, c'est une vingtaine, une trentaine de rétroactions d'utilisateurs qui nous disaient « on ne sait juste pas quoi faire ».
OK, OK.
Pardon. C'était assez unanime. Notre collègue Francis, l'année passée, a fait beaucoup, beaucoup de démarchages pour recruter des clients.
OK.
Et c'est la méthode c'est la méthode Lean, finalement, qui nous permet de vraiment s'adapter aux besoins du client. Donc, quand les besoins sont apparus d'avoir des canevas, d'avoir des rappels, etc., bien, on les a transposés pour pouvoir servir le client.
Fait que vous avez pivoté rapidement en ayant le feedback.
Puis on fait beaucoup d'itérations rapides. Donc, on est capable rapidement de savoir si on s'en va dans la bonne direction ou si on s'éloigne de ce que... Tu sais, quand le client nous dit « Ah oui, je voudrais avoir des templates », bien, si on avait fait un gros... des centaines de templates, puis on y avait donné ça, puis il aurait dit « Bien, je sais pas plus comment les remplir. » On aurait passé plein de temps pour rien. Donc, tu sais, on fait des itérations rapides en disant « Regarde, voici, en voici un template. » Puis là, il nous retourne en disant « Je ne sais pas plus quoi faire avec. » Donc là, OK, est-ce que le template est bon? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Donc, c'est avec plein d'itérations rapides comme ça qu'on est capable de saisir le client.
Donc, vraiment intéressant d'utiliser la méthode Lean. Un bon exemple de réussite, je dirais, de ce point de vue-là.
Oui, un autre exemple que le Lean nous a apporté à faire un pivot sur la plateforme, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens voulaient utiliser la plateforme pour documenter le contenu de leur réunion. Fait que, encore une fois, Louis, visionnaire de ce côté-là, a décidé qu'on allait faire un outil pour gérer les réunions. Donc, on a un outil à l'intérieur de Minute Dépôt qui permet de générer un ordre du jour, de l'envoyer à nos participants et ensuite de faire un procès-verbal de cette réunion-là. Et évidemment, ça s'en va, les extraits de ça s'en vont tous dans les bonnes sections.
Automatiquement. Là.
Oui, tout à fait. Donc, dans les avis de convocation, ça s'en va, les PV s'en vont dans la section des PV, etc., etc.
Okay.
Donc, c'est un outil qui est... assez sommaire, là, mais ça fait le boulot. Ça fait le boulot pour bien les organisations.
OK. Je suis vraiment intéressé. Je me suis connecté à la plateforme avec la période d'essai, donc je vais approfondir tout ça, c'est sûr. J'ai remarqué que votre modèle de vente est par abonnement annuel.
Oui.
Si je me trompe,
exactement ça, oui.
Le prix est quand même assez abordable aussi, d'après ce que j'ai pu constater. C'est une centaine de dollars, je pense.
Oui, effectivement. On a appris ça aussi. On est toujours en apprentissage dans une entreprise comme la nôtre. Et on a appris que pour gain de crédibilité aux États-Unis, notre prix est peut-être un peu trop bas.
OK.
OK, on a parlé avec d'autres entreprises qui, eux, n'ont pas eu de succès aux États-Unis jusqu'à ce qu'ils ajustent leur prix vers le haut un petit peu.
C'est vraiment intéressant. Hein?
Oui, effectivement.
C'est bon pour vous, dans un sens. Ça peut augmenter les profits. D'un autre côté, est-ce que vous avez des services supplémentaires? Donc, une fois que je suis abonné, est-ce que j'ai accès à tout ou je dois acheter des petites pièces quand j'ai besoin?
Oui, effectivement, on a créé, encore une fois, à partir des besoins des clients.
Okay.
Les gens ne voulaient pas numériser leur fameux livre de société eux-mêmes. Ils trouvaient ça que c'était un fardeau. C'est « oui, oui, je vais le faire, mais ils ne le feront jamais ».
Okay.
Donc, on a offert un premier service l'année dernière, en 2015, je crois, un service qu'on appelle le service de concierge ou de butler en anglais,
mm-hmm.
qui nous permet d'expédier le livre. Donc, on envoie FedEx au siège social de la société ramasser le livre de minutes.
Okay.
On l'amène à nos bureaux. On le numérise,
okay.
on génère tout le livre, on fait tout le service comme ça, et on retourne. Là, on donne le choix, ça c'est un peu drôle, on donne le choix à l'entrepreneur de faire détruire le livre avec Iron Mountain ou de le retourner par FedEx.
Okay.
Pour le moment, zéro personne nous a demandé de le détruire. Mais ça va venir, on arrive, on s'en vient par là, c'est sûr. Donc, c'est un service qui est quand même assez abordable. Nous, on le fait presque à perte. Là. On le fait finalement avec pas une scène de profit.
Mm-hmm.
C'est vraiment pour favoriser l'adhésion. Donc, on offre ce service-là pour 150$.
Okay.
Imaginez-vous enlever deux FedEx, il ne reste plus grand-chose.
Oui, c'est ça, ça va assez rapidement.
Et puis, un autre service qu'on offre, ça, c'est plus nouveau. On a découvert, en parlant avec des clients, que les gens ont besoin d'amour puis ont besoin qu'on leur tienne la main.
Okay? Okay.
C'est un sujet qui n'est pas plaisant, qui est pas... Les gens ne vont pas se pitcher pour parler de livres de société. Donc, en offrant le service de compagnon pour 199$, on offre 2 heures de formation sur la plateforme et finalement, on accompagne moralement la personne qui va faire le boulot de créer elle-même son livre de société.
Okay,
on va plus baisser son niveau d'inquiétude puis finalement donner un petit coup de discipline parce qu'on a un rendez-vous à heure fixe. Puis...
Ah, ça aide aussi.
Hein, oui, au bout de 2 heures, le livre est fini puis on n'en parle plus pour 11 mois et demi. Là.
C'est bien. Dites-moi, d'un point de vue légal, est-ce que le résultat de votre produit tient la route? Donc, est-ce que lorsqu'on fait des transactions, justement, soit des transactions d'achat de l'entreprise ou des choses comme ça, ce que vous avez généré est bon et de bonne qualité?
Oui, effectivement. Premièrement, ça a été validé par des avocats. On est parti de travaux qui ont été faits par des avocats. On a amalgamé, arrondi les coins un petit peu pour que ça soit plus accessible.
Mm-hmm.
Mais grosso modo, le travail a été validé par des avocats de la région de Québec et de Montréal.
Okay.
Donc oui, ce qu'on cherche à avoir maintenant, c'est une reconnaissance nationale, peut-être auprès du barreau. J'ai vu dans le journal cette semaine que le barreau peut-être une certaine ouverture. En tout cas, on demande une ouverture au barreau de travailler plus avec les technologies comme la nôtre, mm-hmm. en complément. Parce que ce qu'on fait finalement, c'est du travail, ce n'est pas du travail d'avocat. Hein? On ne donne pas de conseils légaux, absolument pas.
Mm-hmm.
On ne donne que de l'information légale. Et notre travail correspond plus au travail de parajuriste.
Okay.
Donc, on a même fait une demande en Ontario pour être membre de l'Association des parajuristes de l'Ontario, qui est plus structurée de leur côté en Ontario.
OK. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Comment vous avez... Qui est vos compétiteurs? Donc, j'imagine aussi dans votre écosystème de services, vous jouez dans quelle ligue, finalement?
Louis, tu ne parles pas beaucoup, désolé, c'est moi qui parle pas.
Ouais, c'est correct.
Mais je pense que notre plus grand compétiteur, c'est la procrastination
okay.
et l'ignorance.
Ah, ça, c'est parfait, ça.
Okay.
Quand on se bat contre ça...
Et donc, si on explique aux gens la pertinence de faire un livre de société et de le gérer, si on leur dit que finalement c'est moins douloureux que ça ne l'air, je pense qu'on va diminuer cette résistance-là. Donc ça, c'est notre plus grand compétiteur. Le deuxième compétiteur, ben, ce sont les services traditionnels. Et ça, ça a encore de la valeur. Hein. On parle des cabinets d'avocats, mm-hmm. les notaires qui ont le droit de faire ça. Quand ils le font, généralement, les meilleurs vont donner des conseils appropriés. Donc, ils vont moduler les choses pour s'adapter aux besoins du client.
Okay.
Évidemment, il y a toujours quelques personnes qui vont être un petit peu expéditifs et vont faire des photocopies pour 1500$ pour n'en parler plus. Mais ça tend à disparaître. En tout cas, c'est ce
on
qu'on
le souhaite,
espère.
En tout cas. Okay.
Et puis, donc, au niveau de la compétition technologique, aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle After Inc., After Incorporation, qui font à peu près ce qu'on fait, mais dans un environnement qui était peut-être un petit peu moins moelleux. Donc, nos interfaces sont un petit peu plus agréables à naviguer.
C'est
le feedback,
aussi,
le feedback okay. qu'on a de nos clients américains.
Okay.
Et puis, on vient de découvrir une société au Canada qui fait le même... pas tout à fait le même boulot, mais qui tendent à travailler un petit peu dans le même domaine que nous, donc au Canada anglais.
Okay.
Donc, ça valorise un petit peu notre modèle, effectivement.
Ah oui,
il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent au niveau d'un outil d'incorporation, Mais le fameux livre de société en numérique, il n'y en a pas énormément.
C'est pas encore au point.
Non, il y a...
Donc, vous êtes quand même avancé par rapport à vos compétiteurs, ouais. C'est ce que je comprends.
C'est assez sommaire comme compétition pour eux. Okay. C'est un peu disparate.
OK. Je trouve ça intéressant que vous soyez basé à Québec. C'est flatteur de voir que vous êtes... Est-ce que vous êtes tous les deux de Québec?
Oui. Oui.
OK.
En fait, je suis de la Beauce, pour être plus précis.
OK, ça va.
Mais
j'habite à Québec. Oui.
J'habite à Québec depuis 2001.
OK, c'est bien. Puis, je pose la question. Vous avez déjà eu une start-up avant Minute Dépôt. Vous avez des bonnes relations professionnelles, ce que je comprends, parce que pour vouloir poursuivre dans le milieu... des startups ou de l'entrepreneuriat en équipe, comme ça, comme associé, ça démontre que vous avez quand même une bonne entente, j'imagine.
On se complète extrêmement.
Ouais. Bon, ça, c'est important aussi.
Oui, souvent, on n'a pas besoin de se parler. On sait ce que l'autre pense, puis okay. On y va avec ça.
On se complète super bien. Je parle beaucoup, il travaille fort, ça va vraiment bien.
Les rôles sont bien définis, c'est parfait. Dites-moi, au niveau de la croissance de Minute Dépôt, comment ça se passe? Est-ce que, je pense que vous avez quelques fiertés à partager avec nous, mais en termes de croissance, est-ce que vous avez une croissance exponentielle? Comment ça se passe?
Ça a été plutôt lent en 2016 parce qu'on n'a pas fait de commercialisation, okay. Parce qu'on tenait ça secret, puisqu'on savait que le besoin était vraiment dans un outil qui donnait vraiment des outils d'autonomie aux gens. Mm-hmm. Donc, on s'attend qu'en 2017, d'avoir une croissance très, très forte. Puis effectivement, on le sent. En 2017, okay. On sent vraiment une croissance qui est accélérée. On fait des efforts de démarchage au Canada anglais au niveau du web. Donc, okay. Louis a pris en charge tout l'aspect marketing web Canada anglais.
Okay.
Donc, pour l'instant, on ne travaille pas aux États-Unis parce qu'on commence à peine à générer nos wizards pour certains États. Louis, on commence par le Wisconsin parce que ça donne bien. Ensuite, okay. Les prochains sur la liste, Delaware, New York, Mass, Californie, Floride.
OK.
Toutes les gros.
Oui, Delaware en premier à cause des raisons qu'on connaît. Là, c'est vraiment un paradis de la fiscalité.
OK, OK. Donc, c'est
intéressant. Et puis, commercialisation aux États-Unis, plus en deuxième moitié de 2017. Donc, puis au Québec, ben, on travaille plus en démarchage direct.
OK, OK. Quand même intéressant de mélanger aussi d'avoir un marketing mix qui permet d'étendre un peu vos tentacules
et de mesurer
sur le continent.
Résultats. Et de mesurer.
Et de voir les résultats aussi, bien sûr.
Parce qu'on démarre lentement la commercialisation. Louis, je peux te laisser le micro à ce sujet-là, mais Louis vraiment peaufine sa commercialisation pour obtenir des métriques.
Okay.
Donc, plutôt qu'investir une fortune mm-hmm. pour faire le plus de hits possible, c'est vraiment à la graine pour savoir qu'est-ce qui fonctionne et c'est dans qu'est-ce qui fonctionne qu'on va vraiment investir.
Okay. Veux-tu en parler plus?
Oui, ben, c'est vraiment ça. Dans le fond, c'est qu'on cherche un user persona, c'est-à-dire mm-hmm. le client qui va acheter présentement. Il a quel âge? Qu'est-ce qu'il achète? Il y a quoi comme auto? Y a-tu des enfants? Y a... mm-hmm. Vraiment, vraiment là, une tonne d'informations qu'on essaye d'entrecouper pour trouver c'est qui le user précis qui prend la décision et qui achète chez nous. Puis une fois qu'on a ça, ben, c'est facile après de targeter tous ceux qui fit dans ce moule-là, qu'on sait que c'est vraiment un client qu'on n'aura pas besoin de démarcher longtemps parce qu'il va arriver quasiment tout de suite. Fait qu'on est vraiment dans ce processus-là. Ça fait un mois et demi qu'on a commencé. Puis déjà, on commence à voir que la roue tourne plus vite.
Okay.
Parce qu'on est de plus en plus précis sur qui on cherche exactement.
Donc, le jeu des personas reste toujours pertinent.
Toujours pertinent en marketing. Okay. Ah oui.
Excellent. On voit que ça va bien. Vous avez sûrement rencontré quelques défis depuis le lancement de Minute Dépôt. Voulez-vous en parler un peu? Qu'est-ce qui a été le plus difficile, disons, à surmonter jusqu'à maintenant?
Ben, je pense que c'est un exercice de patience. On avait de grands espoirs, on était convaincus d'avoir des milliers de clients la première semaine, etc., okay. etc. Toujours un peu naïf. Et c'est ce rêve-là qui nous pousse à aller plus mm-hmm. loin. Parce que oui, on est rêveurs, on espère pour le mieux, mais on est tenace. On l'a prouvé dans le passé. Et encore aujourd'hui, on est très, très tenace dans ce qu'on fait. Et puis, l'adhésion est un peu moins rapide que ce qu'on espérait. J'avais espoir de recruter en 2016, juste par mes propres moyens, par des cabinets d'avocats, etc., 1000 sociétés au Québec francophones qui utiliseraient la plateforme.
Okay.
Dans la vraie vie, on a un peu laissé ça de côté pour développer le produit, pour faire un produit qui ressemble plus au produit de 2017.
Que vous voyez aujourd'hui.
Et puis, finalement, on n'a pas atteint cet objectif-là. On avait seulement 600 clients à Noël.
Okay.
Ce qui est quand même pas notre objectif. On était un petit peu déçus. Mm-hmm. Mais là... avec la commercialisation qui suit le produit qui attend, dont les attentes des clients, qui correspond aux attentes des clients, ben là, on pense que ça va lever un petit peu plus sérieusement.
OK. Fait que la barre est plus haute cette année, j'imagine.
Oui, effectivement, mais peut-être qu'on a baissé nos attentes. On est un petit peu plus réaliste. On sait qu'on a été déçus l'année dernière. Mm-hmm. Et puis, notre ténacité va nous amener à avoir du succès.
Oui, il y a un meilleur fit aussi du produit marché. Donc, ça devrait être plus facile à vendre.
Plus facile à vendre aussi.
C'est vrai.
Mais vous êtes pas mal dans l'approche lean, puis on sait que les produits prennent souvent quelques années. On est très enthousiaste, mais ça prend quand même du temps. Il faut être patient et tenace, oui. Je vous l'accorde. En terminant, si vous aviez des conseils à donner à nos entrepreneurs, futurs entrepreneurs, quels seraient-ils?
Bien, ça revient à une chose principalement, c'est de se structurer adéquatement au point de départ, parce que c'est extrêmement facile de le faire au point de départ. Mm-hmm. Et quand arrive le moment où un investisseur s'en vient pour vous appuyer, ou peut-être on voit poindre une transaction, peut-être vendre la société ou peu importe, ou aller demander un prêt à la banque, si votre comptabilité n'est pas au point, ou si vous n'avez pas de livre de société, ou si vous n'avez pas documenté vos décisions au point de départ, bien, ça devient extrêmement douloureux, généralement, de le refaire au passé. Mm-hmm. Pire que ça, hier soir, je discutais avec des collègues, des avocats qui mentionnaient que les gens qui ne vont pas au point de départ prendre des décisions sur comment, par exemple, ajuster une convention d'actionnaire ou des choses comme ça, au moment où tu te rends compte 5 ans plus tard que tu ne l'as pas fait, c'est qu'il est trop tard. Tu en as vraiment besoin, puis c'est plus le temps.
Quand il y a des conflits, c'est pas le temps de les régler.
Il est trop tard. Donc, vraiment, le conseil, c'est structurez-vous au point de départ. Les cabinets d'avocats offrent des packages complets pour vraiment aider les entreprises. Et Minute Dépôt peut aider juste au niveau du livre de société, juste de se structurer avec ça. C'est un outil de partage qui est vraiment utile pour les compagnies.
Un très bon départ. Je vous remercie beaucoup de votre participation à l'émission, Louis-Marc et Louis. Alors, bon succès dans votre mise en marché pour Minute Dépôt. Puis, je souhaite une grande réussite.
Merci Yannick.
Merci. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur les ondes de Chiz à l'émission Entreprendre Québec jusqu'à 14h. Yannick Lepage avec vous. Alors, restez avec nous. Après la pause musicale et les publicités, nous entretenons avec Caroline Sinette de La Ruche Québec.
le vendredi de 13h à 14h30.
Chiz, c'est l'élixir de jeunesse de Québec.
Chiz, c'est ta référence musicale dans la vieille capitale.
Sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est extra pour nous autres.
Ma?
Oui, mon chou?
Le groupe prépositionnel, là. Comment je fais pour trouver ça? Ma?
Allô, prof.
Ma, j'ai besoin d'aide.
Oui?
En anglais, là, c'est quoi déjà une auxiliaire modale?
Auxiliaire model.
On ne peut pas avoir réponse à tout. Heureusement, il y a Allô Prof.
The girl with that shit in her hand. I woke up in the sand. I told the manager, I told the band that you can never really ever go home again. Yes, it's as simple as that. I was doing my best in a world full of wreckage. I was doing my impressions of a blind man. Apocalypse shadow walking takes the stage and says, babe, I'll do whatever I can, I'll do whatever I can. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea. That's my mystery. Lost at sea, that's my mystery, that's my mystery. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea, that's my mystery, that's my mystery. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea, that's my mystery, that's my mystery. You're lost in the lighthouse, you're lost at sea, that's my mystery. That's my mystery. You're lost in the lighthouse. You're lost at sea. That's my mystery. You're lost in the lighthouse. You're lost at sea. That's my mystery. That's my mystery. You're lost in the lighthouse. You're lost at sea. That's my mystery. That's my mystery. I conduct a business.
Aujourd'hui avec Caroline Sinette, qui est directrice de La Ruche Québec. Bonjour Caroline.
Bonjour Yannick.
Je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui avec nous, surtout que vous faites beaucoup d'efforts je pense, juste à cause de La Ruche de l'université qui est ici. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de La Ruche en général, mais j'aimerais commencer par en savoir un peu plus sur toi. Quel est ton parcours professionnel? Qu'est-ce qui t'a amené à La Ruche?
En fait, mon parcours professionnel, il a été un petit peu long à atterrir. Disons que j'ai été plusieurs années. J'adore voyager, j'aime découvrir, j'aime les gens. Et je déteste tout ce qui est monotonie et tout ce qui est « je le fais parce que tout le monde le fait ».
OK.
Fait que ça a été très long avant que j'ai une idée très claire de professionnellement où est-ce que je voulais m'impliquer, ou plutôt où est-ce que je voulais donner mon temps.
Mm-hmm.
Et à un moment donné, ben, j'ai fini par me retrouver sur les bancs d'école. J'ai un bac, j'ai fait des études en géographie, j'ai une maîtrise en environnement. Et je me suis retrouvée à travailler 7 ans comme chargée de projet pour accompagner les gens qui souhaitaient innover, donc qui voulaient aller de l'avant avec des projets qui visaient des changements de comportement pour pallier à des problématiques sociaux.
OK.
Et à un moment donné, ben, je me suis posé la question. J'étais, après 7 ans, généralement, on a fait le tour. Et j'ai rencontré Jean-Sébastien Noël, qui est un des cofondateurs de La Ruche. Et à cette époque-là, bon, je venais de me séparer, j'avais beaucoup de temps à donner. Puis j'étais dans une réflexion où j'avais vraiment envie de donner mon temps, mon énergie à une organisation envers laquelle je croyais profondément à la mission, mais aussi où j'allais me sentir utile puis avoir des perspectives de développement. Et ça collait vraiment avec la réalité de La Ruche. Et c'est comme ça que, finalement, quand on envoie des commandes claires à l'univers, ça a été mon cas. Je me suis retrouvée à être embarquée dans l'aventure de La Ruche. Donc, depuis le printemps 2016, je suis aux côtés de Jean-Sébastien. Depuis septembre, on a doublé l'équipe.
Okay.
Donc, ça va quand même bien. Et les tâches et les défis manquent pas. Donc, ce que je recherchais et surtout le pourquoi je fais les choses dont j'ai besoin d'avoir une idée claire, ben je l'ai actuellement. Donc, ça, c'est vraiment le fun.
Ben, c'est bien que ça corresponde à tes objectifs de vie. C'est super. Naturellement, il faudrait qu'on s'attarde un peu plus à La Ruche.
La Ruche.
Qu'est-ce que c'est le financement participatif, entre autres? Puis, quelle est votre mission?
Absolument. La Ruche, en fait, c'est une plateforme de financement participatif de proximité. C'est une plateforme qui se démarque beaucoup avec son côté humain qu'on met de l'avant. Nous, on aime dire que c'est le projet des projets. Donc, ça s'adresse vraiment à n'importe qui a un projet et qui a besoin de financement à travers l'appui de la population pour l'aider à le réaliser.
Okay.
Souvent, on se fait demander qu'est-ce qui différencie La Ruche des grandes plateformes comme Indiegogo, Kickstarter.
Mm-hmm.
Principalement, déjà, on est une OBNL. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais on est la seule plateforme de financement participatif qui a un statut d'OBNL et non d'entreprise privée. Mais les deux principaux attributs qui nous distinguent, c'est vraiment que chaque projet qui fait l'objet d'une campagne sur La Ruche doit laisser une empreinte à l'échelle de la région.
Okay.
Donc, nous, on a décidé, contrairement aux grandes plateformes, d'aller au-delà. Le web n'a pas de frontières. Nous, on s'est donné des frontières.
Mm-hmm.
Et notamment, ce que ça a permis de faire, c'est de mettre vraiment de l'avant le côté humain dont je faisais référence pour accompagner les promoteurs dans leur aventure, lors de leur campagne. Donc déjà, il y a l'équipe de La Ruche qui est en ligne de première ligne pour accompagner les gens, mais également il y a ce qu'on appelle nos ambassadeurs SM40 qui sont des gens au sein de chaque région qui se sont réalisés dans leur secteur d'activité. C'est pas juste des entrepreneurs. On a des gens du milieu des arts culturels, politiques. Donc, c'est assez variable. À La Ruche Québec, on a Dominique Brown, on a Charles Auger, on a Nicolas Bouchard, qui est fondateur de Duproprio, Steve Couture. Donc, c'est vraiment des gens qui se sont réalisés, qui ont décidé, à titre d'ange conseil, d'aider les promoteurs à se réaliser et à augmenter leurs chances de succès. Donc, rapidement, principalement, leur rôle prend forme à une activité qu'on organise organise une fois par mois, qui est la cellule, où on permet aux promoteurs de venir présenter leur campagne avant qu'elle se retrouve en ligne.
C'est quand même intéressant comme
concept. Oui, oui, absolument. Puis c'est important de préciser que ce n'est pas des anges financiers. Donc, c'est vraiment c'est pas des dragons, c'est mm-hmm. des anges conseils. Donc, ils sont vraiment là et il y a vraiment des belles histoires parfois qui se produisent. Ils sont vraiment là pour faire profiter de leur expérience, mais également de leur réseau. Et dans certains cas, c'est très organique. Les diades peuvent se créer, les ambassadeurs peuvent dire, ben j'ai vraiment envie de t'aider, j'aime la personne que t'es ou je crois en ton projet, donc je vais t'accompagner le temps de. Donc, cette particularité-là régionale a permis cette mobilisation-là au sein d'une région et ça permet justement d'avoir cette dynamique-là.
OK. Comment le financement? Je comprends que le but, naturellement, c'est d'aller chercher un peu de sous, oui. du financement. Donc, des fois, des entrepreneurs n'ont pas nécessairement de love money pour démarrer. Donc, comment le financement participatif pourrait être utilisé pour tester un nouveau produit ou une offre, par exemple?
C'est une très bonne question. En fait, on l'utilise... La ruche peut être utilisée à différentes sauces. Dans le cas des entreprises qui sont vraiment à une étape de maturité, de démarrage, on peut vraiment utiliser la ruche comme une pré-vente. Donc, ce que ça permet notamment, surtout quand on a besoin justement de love money, de liquidité, souvent qui est conditionnel à l'obtention du financement, c'est déjà de valider son marché, de valider l'étoffe de l'entrepreneur et de donner également à la campagne une belle visibilité parce que, veux pas, le financement participatif, ça se passe sur les médias sociaux, ça se passe sur le web. Donc, ça peut vraiment être un outil complémentaire au financement traditionnel. Ça permet de faire une gestion du succès parce que on peut prévendre, donc on assure... Ce que je n'ai pas dit aussi, qui est important, dans une campagne de financement participatif, le promoteur doit atteindre son objectif dans une durée déterminée pour pouvoir toucher les sommes amassées durant la campagne. Donc, ce que ça permet, c'est que dans une dynamique de prévente, les gens peuvent assurer leur financement avant de produire ce qu'ils ont à produire ou autre. Donc, on réduit le risque financier. Donc, au lieu de produire 40 000 livres, puis de ne pas savoir si on va les vendre, puis d'avoir à les donner à nos tantes puis à nos oncles à Noël, bien là, on s'assure que 40 000 livres
vont déjà être vendus.
On est ambitieux, vont être vendus. Exactement, c'est ça, exactement.
Je reviens, tu as parlé du stade de maturité. On comprend que c'est pas quand on a seulement une idée qu'on pourrait se présenter à la ruche. Là.
Absolument. Étant donné que le principe du financement participatif s'appuie sur, ce n'est pas, il y a différentes formes, il y a différents types de financement participatif. Et dans le cas de la ruche, c'est un type de financement où on offre des contreparties en échange de financement. Donc, et le promoteur a l'engagement de livrer ses contreparties lorsqu'il atteint son objectif en fin de campagne. Pour des projets qui sont à un stade de l'idée, c'est plus difficile, c'est pas impossible, mais généralement, on retrouve plus des projets qui vont être, pour lesquels c'est plus pertinent à l'étape du démarrage ou même à l'étape de la croissance si on veut développer, acquérir des nouveaux équipements. Il y a une réflexion qui est à faire, qui est importante, et aussi au moment où on est à l'étape du démarrage, bien, on a une idée généralement quand on parle d'entreprise, parce que c'est important de le préciser, la ruche, c'est pas juste pour des start-up. On a trois profils actuellement et ça se divise pas mal, un tiers que c'est des individus, donc qui ont des projets personnels.
Okay.
L'autre tiers qui est plus des entreprises d'économie sociale, donc des coop ou des OBNL, exact.
Okay.
Et le tiers restant, c'est des entreprises...
Que ce soit des start-up ou des entrepreneurs qui sont déjà sur la route.
En opération, exactement.
En opération. Okay.
Exactement. T'sais, on a eu des exemples par le passé où on a eu... Nina Pizza ou même le Griendel qui avait besoin d'un 10 % pour acheter son équipement de brassage de bière et qui a fait une campagne sur la ruche et qui a réussi. Non seulement il a réussi, mais je pense qu'il avait besoin de 15 000 et ils ont réussi à amasser 20 000. Et non seulement ça, puis ça, c'est un bel exemple de prévente. Ils n'étaient pas ouverts, mais ils avaient déjà au-dessus de 375 contributeurs qui avaient appuyé leur projet. Canvas a un peu fait la même chose aussi, les filles de Canvas qui font des sacs sur mesure. Donc,
c'est quand même... Continuons dans les succès, peut-être dans la région de Québec. Il y a des gens qui vont sûrement reconnaître certaines entreprises. Donc, tu as parlé de Nina.
Du Griendel. Nina, oui, exact. Nina, les filles avaient besoin d'un 5 000. Et ça, c'est notre... notre réussite en moins de 24 heures qui avait atteint leur objectif.
Okay. Wow.
À Montréal, on a eu aussi récemment le cinquième album d'Annie Villeneuve qui a réussi à amasser 60 000 pour la réalisation de son cinquième album. Ça, j'aimerais ça faire une parenthèse parce que ça a vraiment été intéressant comme expérience à la fois pour, je crois, Annie, mais aussi pour nous, mm-hmm. parce que ça nous a permis vraiment de constater qu'au Québec, il y avait peut-être encore un petit peu d'éducation à faire pour bien comprendre qu'est-ce qu'était le financement participatif. Et dans le cas d'Annie Villeneuve, elle souhaitait vraiment faire sortir l'entrepreneur, la femme entrepreneur en elle, de se détacher des maisons de production mm-hmm. et de pouvoir pré-vendre son album avant de le produire, finalement, avant de l'enregistrer.
Ça avait été critiqué un peu, quand même.
Les gens avaient plus... La perception que les gens ont eue, ça a été beaucoup de... Elle demande l'argent, donc elle demande c'est comme une levée de fonds, alors que c'était pas le cas. On était vraiment dans une dynamique où elle prévend.
C'était son futur disque.
Exactement, qui était juste pas encore enregistré. Mm-hmm. Elle avait besoin de cette somme-là pour le faire. Donc, elle fait sa campagne pour lui permettre de prévendre ses disques. Et une fois qu'elle avait amassé la somme nécessaire pour l'enregistrement, bien là, elle a pu le faire. Donc, on a eu également la bibliothèque à outils de la patente. La patente est venue avec nous déjà par le passé. Ils ont décidé de revivre l'expérience. Et dans ce cas-ci, ça a été vraiment intéressant parce qu'on a eu la Caisse d'économie solidaire qui nous a dit « S'ils atteignent leur objectif, on le double. » Puis il y a aussi, bien, c'est sûr qu'il y a SAPSA, là, tu sais, on peut pas, j'en ai parlé, on en parle parce que...
C'est le recrutement d'infirmières, je pense.
Exactement, qui souhaitait opérer une clinique gérée par des super infirmières, qui a été très médiatisée. C'est notre plus grosse campagne, donc c'est la campagne qui a réussi à amasser le plus gros montant, on parle d'un montant de 250 000, et qui, avec l'appui de la population, a même eu un effet au niveau de la législation, au niveau de la réglementation. Donc, c'est vraiment un outil aussi qui peut être démocratiquement utilisé pour faire...
La politique?
Oui, bien, passer des messages ou de faire reconnaître des besoins ou du milieu qui n'auraient pas non plus la même réceptivité mm-hmm. sur une grande plateforme internationale où les gens se demanderaient, dans le cas de SAPSA, c'est où le Québec, c'est quoi Saint-Roch, puis c'est quoi une super infirmière?
On part de loin, là. Mais c'est sûr que je pense que l'attrait de la ruche est là, c'est d'être un levier social aussi, quand même.
Absolument.
Donc, je trouve ça intéressant,
absolument,
tout à fait. Actuellement, quels sont les projets qui sont en route,
oui.
qui méritent d'être surveillés?
On en a plusieurs. Si les gens ne sont pas encore allés sur la ruche, je les invite à le faire.
Bien sûr.
En fait, on peut vraiment... Ce qui est le fun, c'est que là, actuellement, on a 4 ruches en opération. Donc, on peut vraiment voir tous les projets qui se trouvent pas juste dans la région de Québec. Mm-hmm. Actuellement, on a... À Québec, un projet que j'aime bien, qui est sur le point de se terminer, un projet qui est « Je veux rendre les aînés heureux » de Jacques Charest, un monsieur très attachant qui fait du karaoké dans les CHSLD.
Okay.
Et il fait une campagne de sous-financement parce que c'est des établissements qui n'ont pas beaucoup de moyens.
Mm-hmm.
Et lui souhaite faire sa campagne. Donc, ce qu'il offre en contrepartie, c'est de pouvoir aller faire des karaokés dans ces établissements-là. Donc, les gens permettent ça. Donc, cette campagne-là est en cours. Il a presque terminé. C'est vraiment une belle cause. Il en manque un petit peu. Moi, si c'était mon coup de cœur aujourd'hui à mettre de l'avant, ce serait ce projet-là.
Okay.
Sinon, bien, sur les autres ruches, il y a quand même des très beaux projets, notamment Soupe pour elle, qui est sur la ruche Montréal, qui est un projet initié par Sophie Brochu de Gaz Métro initialement, qui vise à réunir des gens autour de tous les milieux, autour de la cause des femmes en difficulté. Puis il y a aussi le long métrage de David Lahaye, J'espère que tu vas bien, qui s'est donné comme objectif d'amasser 100 000
okay.
Pour l'aider justement dans la réalisation de son projet. Les projets changent souvent, donc tu sais, c'est bien d'aller jeter un coup d'œil si on a l'intérêt et si c'est...
Je pense que ça peut devenir intéressant, effectivement, de développer sa propre culture et sa propre sensibilité à tous ces projets-là. Je pense que d'y aller une fois par mois, c'est bien parce que je pense que la durée, habituellement, c'est entre 6 et 8 semaines, je pense, c'est ce qu'ils proposent.
Une campagne ne peut jamais aller au-delà de 90 jours. Ça, c'est okay. vraiment la limite maximale. Ce qu'on recommande comme durée, c'est entre 45 et 60 jours.
OK, OK. Donc, c'est quand même... c'est ça. Fait que si on y va une fois par mois, je pense que on va tous les voir.
C'est une bonne fréquence.
Super. On va y aller d'un point de vue peut-être plus pratique, qui est pratico-pratique. Oui. Si jamais je suis client et je suis intéressé à un projet... une campagne. Donc, si j'achète une contrepartie et que la campagne atteint son objectif, est-ce que la ruche s'assure que les participants reçoivent leur contrepartie?
Oui. En fait, c'est une préoccupation qui est très importante pour nous. Les ambassadeurs SM40 dont j'ai parlé ont vraiment un rôle de gardien de l'intégrité des projets qui se retrouvent sur la ruche. On a vraiment cette préoccupation-là. Il y a plusieurs filtres à travers lesquels un projet est appelé à passer. Mm-hmm. Une personne ne soumet pas... Une fois qu'un projet est soumis, ça veut pas nécessairement... En fait, ça ne veut pas dire qu'il se retrouve systématiquement en ligne.
Il ne sera pas nécessairement accepté tout de suite. Là.
Non, okay. Exactement. Donc, on valide vraiment la crédibilité du promoteur, l'intégrité du projet. Donc, à ce jour, il y a une seule expérience qui s'est produite, puis c'était vraiment... Ça se justifiait très bien. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les contributeurs ont été contactés et c'était durant la campagne SAPSA. Okay. Et les gens ont eu l'offre de soit être remboursés ou transférer leur contribution à la campagne SAPSA. Okay. Donc, c'est vraiment la seule fois que ça s'est produite, que la situation s'est produite. On a quand même une bonne mécanique à ce niveau-là pour assurer justement l'intégrité des projets.
Okay, okay. Si jamais j'étais intéressé à démarrer un projet en tant qu'entrepreneur sur la ruche, qu'est-ce que je devrais faire pour me préparer? Donc, tu as sûrement des conseils à me donner comme ça. Là. Tu dois connaître tout ça par cœur, alors je t'écoute.
Bien, souvent, quand on est contacté pour une première fois, on a un échange avec la personne. Première chose, généralement, le premier conseil, c'est allez vous perdre sur la plateforme. En fait, ça permet aux gens de se faire une bonne idée de qu'est-ce que ça prend. Tu sais, je ne l'ai pas encore dit, mais pour une campagne, pour créer une campagne, c'est assez simple. Ça prend un objectif financier, mm-hmm. puis un objectif concret qu'on met de l'avant pour tu sais, à quoi va servir le financement, finalement. Une vidéo, puis une structure de contrepartie. C'est assez simple.
Assez simple, oui.
Il faut réfléchir aussi, dépendamment, tantôt on a parlé du stade de maturité, il faut aussi réfléchir à, dépendamment de notre réalité, de nos engagements, il faut trouver un moment où on a le meilleur moment. Des fois, on se fait poser la question, c'est quand le meilleur moment pour lancer une campagne? C'est-tu Noël? C'est-tu l'été? Le meilleur moment pour lancer une campagne, c'est lorsque la personne a du temps et de l'énergie à y consacrer, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend et l'énergie, parce que ça reste que nous, on est une plateforme, on est un outil, on est là pour accompagner, mais la personne qui est aux commandes, c'est le promoteur de projet. Et après ça, ben c'est vraiment, on invite les gens à se créer un compte, on est là, on les accompagne, on discute le projet, quelle forme est-ce que le projet pourrait prendre pour faire l'objet d'une campagne. Donc, c'est vraiment, du moment où on est en contact avec eux, on ne les lâche plus, finalement.
Ouais, c'est bien.
Du moment où il y a de l'intérêt, là. Donc, c'est pas mal les conseils en ce qui concerne la ruche, là, s'il y avait un intérêt,
là.
Exactement, okay. De se mettre en mouvement, de faire.
Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'apport de la cellule aussi. Donc, je pense que c'est une étape qui est facultative, je
Tout
crois.
À fait.
Mais pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment un petit bijou parce que vous avez la possibilité justement d'être mis au défi par rapport à certaines idées que vous aviez. Donc, les entrepreneurs qui participent sont vraiment bénéfiques dans votre réflexion. Puis effectivement, ça peut déboucher vers des contacts
ouais.
Au-delà de la cellule.
C'est on le décrit bien. Vraiment comme un pré-lancement.
Mm-hmm.
Comme généralement, il y a entre 8 et 10 ambassadeurs qui sont présents à la cellule. Puis c'est comme un échantillonnage du public. Donc, si la campagne est décousue, le message n'est pas clair, il y a des grands... Il y a un gros éléphant dans la pièce, bien, ça va être soulevé. Donc, oui, c'est une valeur ajoutée, effectivement.
C'est bien. Alors, bien, c'est en résumé, la Ruche Québec est disponible pour... les projets que vous pourriez avoir. Alors, je te remercie beaucoup, Caroline, du passage à l'émission.
Merci à toi.
Puis, on vous suit avec beaucoup d'attention pour les prochains mois aussi.
Super. Merci beaucoup.
Que nous soyons, nous n'aimons pas, nous n'aimons pas perdre. D'aussi loin que les lances prennent, nous n'aimons pas perdre personne. Que
soit le prix de la somme.
Nous n'aimons pas tomber personne. Perdre, perdre comme dans perdre.
Si un jour nous vivons nécessaire, l'humilité requise pour ne pas mal perdre. Besoin de perdre. Qui a besoin de perdre? Qui a besoin vraiment? Qui a besoin vraiment de perdre?
Se répète qu'il m'empêche de dormir. Je crois bien devenir fou. Le sang qui monte à la tête et ce bruit qui me rend sourd. Mais au fond, je ne vois pas pourquoi ce matin serait gris. Rejoins-moi à la fin du monde. Toi et moi, pour que tout s'effondre. J'ai ce rêve où tout s'arrête, où je ne dois plus courir, prendre la vie à mon cou. Autour les murs s'écroulent et la poussière couvre tout.
Pour bien comprendre,
nul autre que Stephen Harper qui a introduit notre chronique politique.
Qu'on se rattache à une seule appartenance, ça crée une fermeture d'esprit.
Quand on parle de grosses nouvelles du jour, je pense...
Écoute Chiz pour découvrir la face cachée de l'information.
Ne manquez pas Radio Éclectique, une émission 100% musicale dans vos oreilles. Tous les mercredis de 23h à minuit sur les ondes de Chiz 94.3.
Le Troc Esport du B-League vous offre la chance de visionner vos événements sportifs préférés dans une ambiance de bistrot chaleureuse et sympathique. Repère par excellence des amateurs de soccer à Québec, nous présentons tous les matchs de l'Impact de Montréal, mais également de nombreux matchs des grands championnats européens. À l'excellent menu du B-League, qui est disponible jusqu'à 22h, s'ajoute un menu plus léger de planchettes de dégustation à seulement 10$ plus taxes, offert jusqu'à 23h30. Le Troc Esport du B-League, 485 rue Saint-Jean, Québec. Suivez notre programme sur Facebook et Twitter.
Découvrez la première Biennale hivernale d'art contemporain avec 50 artistes de 9 pays dans 30 lieux de la ville de Québec, dont au pavillon Pierre-Lassalle.